Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La suite de notre tour du monde sportif sur la radio du monde. De nouvelles destinations à explorer ce dimanche. Premier arrêt, le Parc des Princes. Le PSG a enfin validé son titre de champion de France ce dimanche. Nous irons également en Angleterre où Liverpool s'accroche au fauteuil de leader de la Premier League. Vous l'aurez compris, le football est à la une de Mondial Sport en Europe comme en Afrique où tous les qualifiés pour les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans sont connus, quatre pays assurés de disputer un peu plus tard la Coupe du Monde de la catégorie. Au sommaire également, le basket, l'heure est au play-off en NBA, l'occasion pour les Camerounais Joel Embiid et Pascal Siakam de se distinguer. Et puis en tennis, les Françaises filent en finale de la Fed Cup. On en parle en fin d'émission. Mondial Sport, place au coup d'envoi. Cette fois, c'est la bonne. Le PSG est de nouveau champion de France. Avant que ce week-end ne débute, le Paris Saint-Germain avait bénéficié de trois tentatives pour valider un titre qui lui tendait les bras depuis de nombreux mois. Trois tentatives pour trois échecs et une drôle de crise. Le PSG a finalement été sacré pour la huitième fois de son histoire ce dimanche à l'occasion de la 33e journée. Sacré avant même de recevoir Monaco. Et ce, grâce au match nul de Lille à Toulouse, plutôt dans la journée. Et pour que ce dimanche se referme en beauté dans la capitale française, les hommes de Thomas Tuchel ont dominé l'ASM au Parc des Princes, 3-1, le tout sous les yeux d'un certain Olivier Pron. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Alors est-ce qu'on peut dire que grâce à Kylian Mbappé, le PSG a fêté dignement son nouveau titre de champion de France ?
Dignement, je ne sais pas, mais grâce à Kylian Mbappé, ça c'est sûr. Parce que sans lui, on se demande si Paris aurait remporté cette rencontre. Paris pas très emballant. Petit Paris, très faible Monaco. On pourrait aussi dire Mbappé est grand, Monaco bien petit. En tout cas, Kylian Mbappé a marqué un triplé. C'est son deuxième cette saison. Il en est à un quadruplé. Deuxième triplé, quatre doublés et il en est surtout à 30 buts en tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Eh bien, 30 buts, sachez qu'un buteur français n'avait pas fait aussi bien dans une Ligue 1 ou autrefois la première division, la D1, depuis Jean-Pierre Papin en 89-90, je ne sais même pas si vous étiez né, Hugo Moissonnier. En tout cas, il a marqué à la 15e, à la 38e et puis il a marqué à la 55e, deux fois bien servi par Dani Alves. Il a même frappé sur le poteau, il était partout Kylian Mbappé et forcément les Monégasques étaient à peu près nulle part, surtout défensivement. Paris a gagné 3-1, Paris est champion et c'est tout ce qu'il y a à dire.
Bon, il y a quelques bonnes nouvelles quand même. Bon, la victoire, le sacre, le retour aussi de certains blessés et non des moindres, je pense à un certain Brésilien.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est une vraie, vraie bonne nouvelle. Parce que le vrai objectif, Paris savait qu'il serait champion à un moment ou un autre. Mais le vrai objectif, pour au moins glaner deux trophées, bon, trois si on compte le trophée des champions l'été dernier, mais pour gagner au moins deux trophées dans la saison en cours, c'est la Coupe de France, la finale. Ce sera samedi, le 27 avril, face à Rennes. Et, ben, c'est une bonne nouvelle de gagner pour se rassurer un peu, mais surtout de retrouver Neymar à la mi-temps, qui a joué donc 45 minutes, et même Edinson Cavani, qui lui est entré à la 71e, donc 20 bonnes minutes de jeu. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Cavani. Neymar a semblé un peu plus en jambes. Bien sûr qu'ils manqueront de rythme, mais ils sont là, et ça c'est bien. En revanche, ils ont peut-être perdu Marco Verratti, qui s'est blessé à la 75e. Il est sorti en boitillant, pas beaucoup d'informations encore, mais bon voilà, lui pourrait faire défaut parce que c'est quand même une pièce maîtresse du 11 de Tuchel.
Allez, un mot sur l'ambiance ce soir au Parc des Princes, Olivier Pron. A-t-on senti que ce soir, le PSG fêtait un nouveau titre de champion de France ?
Eh bien non.
Ça devait être catégorique.
Non, alors c'est vrai qu'il y avait une tribune, la tribune Auteuil, celle des fanatiques, des ultras, celle qui met de l'ambiance. Elle était fermée parce que ces gens-là comprennent toujours pas qu'il faut pas utiliser des fumigènes. Donc c'était un huis clos. Ça a permis au PSG de rendre hommage à Notre-Dame de Paris. Il y avait un très grand tifo là inscrit avec la cathédrale dessinée. C'est vrai que la cathédrale était aussi inscrite sur les maillots des joueurs. 1 000 à 2 000 de ces maillots seront vendus au profit de la rénovation de la cathédrale, ça c'est pour les bonnes choses en ce qui concerne ce qui s'est passé lundi. Pour l'ambiance, non, il y en a eu un peu à la fin, les joueurs sont restés quelques minutes dans le rond central, beaucoup de musique, mais encore une fois, je pense qu'il faudra attendre la Coupe de France et une éventuelle victoire pour que là, enfin, il puisse y avoir une fête.
la Coupe de France, la finale de la Coupe de France qui sera à suivre en intégralité en direct sur RFI samedi prochain. En attendant, excellente soirée à vous, Olivier Pron.
Eh ben merci, il y a Eric Choupo-Moting là. Il n'était pas sur la feuille de match, dites donc, mais il est en train de faire le guignol sur le bord du terrain. C'est déjà ça.
C'est déjà ça, en effet. Merci Olivier Pron. Un autre résultat signalé en Ligue 1 ce dimanche, le succès de Saint-Etienne à Reims 2-0. Les Verts reprennent la quatrième place. Ils sont à 3 points de Lyon, le rival, à 3 points du podium. Le titre, c'est donc une affaire réglée en France, une affaire réglée en Italie, ce sera bientôt réglé en Espagne. Le suspense, il est surtout à chercher du côté de l'Angleterre. 35e journée de Premier League, Manchester City avait pris la tête hier, mais Liverpool lui a répondu tout à l'heure à Cardiff. Bonsoir Philippe Auclair.
Bonsoir à vous.
Et welcome back to RFI, de retour sur RFI, Philippe Auclair, correspondant à Londres. Vous avez suivi le succès des Reds sur le terrain de Cardiff City tout à l'heure. Il a fallu attendre la deuxième période pour que se dessine cette victoire. Ça n'a pas été simple.
Non, c'est... De toute façon, on s'y attendait. Jürgen Klopp l'a dit après la rencontre. Il savait qu'il a parlé d'une peau de banane potentielle. On savait que cette équipe de Cardiff qui est restée sur une victoire sur Brighton, elle se bat. Elle se bat pour survivre. On se souvient peut-être de ce match contre Chelsea qu'elle avait perdu 2-1 mais qu'elle aurait mérité largement de gagner. C'est le match piège, en ce sens que si jamais Liverpool faisait preuve de la moindre arrogance vis-à-vis de cette équipe de Cardiff, eh ben, ça pourrait mal se passer. Ça a été compliqué, hein. Il a fallu attendre la deuxième période. Il a fallu attendre une combinaison sur un corner entre le jeune Alexander Arnold et Gigi Wijnaldum, qui marque pas beaucoup de buts, mais celui-là était très important pour l'ouverture du score. Et même Cardiff a eu des occasions. Il y a une occasion de Morrison en particulier. On se demande encore comment il a pu louper un but qui était vide. Mais bon, voilà. Mohamed Salah provoque un penalty. Il provoque également la fureur de Neil Warnock, l'entraîneur de Cardiff au passage. On se demande un peu pourquoi, parce que il y avait vraiment péno. Hein. Le penalty est transformé par James Milner, 2-0, donc tout rentre dans l'ordre. Et donc Liverpool retrouve la tête du championnat. Je vous avouerai que j'ai perdu le nombre de fois où la tête du championnat est passée d'une équipe à l'autre. Liverpool est de nouveau en tête, 88 points, devant Manchester City, 86 points. Différence de but supérieure, il faut bien quand même ajouter ça, pour Manchester City, plus 65 contre plus 59, c'est quasiment un point de plus, hein, en l'occurrence. Ça pourrait peut-être jouer un petit rôle, mais en tout cas, ces deux équipes continuent de mener un train d'enfer, que bien évidemment, on a laissé tout le monde. Il n'y a plus personne dans le rétroviseur depuis un bon bout de temps, hein. Mais ça va aller jusqu'au fil, quoi.
Et c'est ce qui rend la première ligue passionnante cette saison. Vous parliez de Mohamed Salah, Philippe Auclair, quatre Africains titulaires au coup d'envoi du côté de Liverpool ce dimanche, dont Salah, dont Mané. Pas de but pour les vedettes, un pénalty provoqué tout de même pour l'Égyptien. Ont-ils contribué au succès de Liverpool ce dimanche, tout simplement?
Absolument, et il y en a un qui était particulièrement en vue et qui est peut-être pas celui qu'on attendait, c'est Joël Matip. Parce que il a quand même récupéré un boulot un petit peu difficile, dans ce sens que il est vraiment entré dans cette équipe pour de bon après la blessure de Joe Gomez. Joe Gomez et Virgil van Dijk composaient au moment de la blessure de Gomez la meilleure défense à mon sens d'un club de première ligue. Et au fil des matchs, on le voit vraiment en train de mettre en place une relation les plus solides avec Van Dijk. Et ce qu'il a montré aujourd'hui en particulier, c'est pour ressortir le ballon de la défense, il a été tout simplement remarquable. Il a fait un très 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 gros match. Et oui, ils ont tous joué leur rôle. Ils jouent tous un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que la saison arrive. Parce que c'est quoi cette histoire ?
Philippe Auclair, on a quelques soucis de connexion. Peut-être une dernière question, si la ligne ne cède pas, qu'on revienne un petit peu sur la performance de Manchester City hier, qui a pris sa revanche sur Tottenham. Manchester City, vous en parliez, qui a un match en retard, donc qui a quand même son destin en main. C'est vraiment la grosse menace pour les Reds, ce Manchester City qui a du répondant, on l'a vu hier.
Oui, et dans un match extraordinairement disputé, qui était d'ailleurs presque un petit peu limite lors du premier quart d'heure, un seul but a suffi, ce but de Phil Foden, le jeune anglais. Mais on a vu la réaction qu'on attendait après l'élimination en Ligue des Champions. On a vu une équipe de Manchester City qui était remontée comme une pendule, une équipe de Manchester City qui a un programme qui est pas trop compliqué. C'est quand même extraordinaire que je dise ça alors qu'on a un derby de Manchester le 24 avril, mais c'est un derby de Manchester contre le Manchester United qui s'est incliné 4-0 à Everton. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais ils ont un programme qui paraît à leur portée. Et de façon, pour toutes ces deux, pour ces deux équipes, que ce soit Manchester City ou Liverpool, il va falloir gagner tous les matchs. Et si c'est le cas, eh ben c'est Manchester City qui sera champion.
Et on verra ça avec vous, bien sûr, Philippe Auclair. Merci, merci pour votre première dans Mondial Sport. C'est désormais vous, le spécialiste du football anglais pour le service des sports de RFI. Un dernier mot sur la première ligue, le championnat anglais. La lourde défaite 4-0 de Manchester United à Everton et la défaite à domicile d'Arsenal face à Crystal Palace malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang. On passe au football en Afrique. Cédric de Oliveira m'a rejoint. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Hugo.
Alors, on connaît les affiches des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans. C'est un peu loin de la première ligue, mais ça nous intéresse.
Oui, c'est effectivement la CAN des moins de 17 ans. Ce sera donc Cameroun, Angola et Guinée-Nigeria. Le Cameroun, déjà qualifié, a été tenu en échec par le Sénégal 0-0. C'est suffisant pour lui pour accrocher la première place du groupe B qui s'est déroulé donc la troisième journée ce dimanche. De son côté, la Guinée a fait le strict minimum pour arracher sa qualification, un succès 1-0 face au Maroc qui vient conclure un premier tour plutôt réussi à Dar es Salaam. Le reportage de Tierneya Diallo.
Contre rempli pour le Sidi Kadé qui a dominé ce dimanche le Maroc sur le score de 1-0. Entré en jeu à la 59e minute, Momo Fandié Touré va libérer les siens 5 minutes après, marquant ainsi son deuxième but de la compétition. Al-Ghassim Ba, capitaine des moins de 17 ans guinéens.
Aujourd'hui, on joue sans pression. Parce qu'on a confiance en nos hommes, on a confiance en notre équipe. On a joué sans pression. Petit à petit, on a construit et on a pu marquer. Toute la population guinéenne, comme je l'ai dit, et confiance en nous. Tant que vous ne nous voyez pas, l'aéroport international Bessia de Conakry, croyez en nous, parce qu'on est capable.
Battu d'entrée 2-0 par le Cameroun, la Guinée a dû se reprendre devant le Sénégal lors de la deuxième journée, avant de conclure face à une équipe du Maroc volontaire, mais beaucoup trop tendre physiquement. Jamal Selami, sélectionneur des U17 marocains.
Je pense que devant nous, on avait une équipe très bien en place. Physiquement, ils gagnaient les duels au sol et aérien. C'est une équipe qui est plus forte que nous. Les joueurs, ils ont tout donné. Je pense qu'ils ont bien joué.
Avec 6 points, la Guinée prend définitivement la deuxième place du groupe B derrière le Cameroun et se qualifie ainsi pour la troisième fois d'affilée pour les demi-finales de cette CAN et pour la Coupe du Monde de la catégorie. Dar es Salaam, Tierneya Diallo, RFI.
Voilà, Guinée, Nigeria et Cameroun, Angola, les deux demi-finales auront lieu mercredi. À noter, Hugo, que cette troisième journée du groupe B s'est déroulée dans une drôle d'ambiance puisque le Maroc et le Sénégal avaient déposé une réserve cette semaine au sujet d'une fraude supposée concernant l'âge d'un joueur camerounais. Et de deux Guinéens. Alors les deux fédérations incriminées qui ont réagi à leur tour assez sèchement par des communiqués. La Fegifoot a d'ailleurs demandé à son homologue sénégalaise d'apporter les preuves de ces accusations. La CAF, elle, doit statuer sur ces cas en début de semaine. Affaire à suivre.
Cédric de Oliveira, le sport africain dans Mondial Sport. Retour sur les championnats d'Afrique d'athlétisme junior.
Ben oui, on en parlait hier, Hugo, déjà. Une compétition qui était réservée à deux catégories, les moins de 18 ans et les moins de 20 ans, et qui a donc confirmé l'éclosion de certains talents, dont Sinosifo Dambilé, le Sud-Africain. En revanche, la délégation ivoirienne a connu un peu plus de difficultés. 3 petites médailles seulement, c'est très loin, donc des Sud-Africains ou des Nigérians. Déception au pays de Marie-José Talou ou Muriel Aouré, sous les yeux de notre correspondant. Correspondant à Abidjan, Youen Gourlet.
Si durant 5 jours, l'hymne sud-africain a retenti plus d'une trentaine de fois dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, l'Abidjanaise n'a pu être entonnée. Triste bilan pour la Côte d'Ivoire, 3 médailles, une en argent au javelot et 2 en bronze au relais. Pour l'ancienne sauteuse en hauteur, Lucienne Kofi, les athlètes ivoiriens n'avaient parfois pas vraiment les moyens de rivaliser.
Vous verrez qu'à la hauteur, les enfants sautaient sans les chaussures de saut. Il y a eu des enfants qui ont sauté les pieds. Et ce qui n'est pas normal. Quand on veut atteindre des performances, on met tous ces outils à la disposition de nos enfants. Donc, on ne peut pas faire de miracle.
Présente en tribune toute la semaine, la championne du monde du 60 mètres, Muriel Aouré, a pourtant vu de belles choses et n'a pas boudé son plaisir.
Même si on avait une seule médaille, on allait être content. Hier, on a sauté dans le stade, on a crié et vraiment, c'était super, super. Donc pour nous, nous sommes très contentes. On commence comme ça et après, elles vont progresser.
À ses côtés, la vice-championne du monde, Marie-José Talou, a bien noté l'écart entre les pays anglophones et la Côte d'Ivoire, mais reste optimiste. À 18 ans, rien n'est fait.
Vous savez, nous, en cadet junior, on n'a pas vraiment été excellent. Et ce qui importe plus, c'est pas le début, mais c'est la fin. Voilà. Il y en a plein qui vont exceller en cadet junior et on les verra pas en senior.
Reprise en main il y a 2 ans, la fédération ivoirienne veut redorer son blason. Une nouvelle politique de repérage des meilleurs athlètes du pays vient d'être lancée dès le plus jeune âge pour réunir la crème de la crème. Le président de la Fédé, Jeannot Kwame Kwayo.
L'année dernière, en 2018, il fallait aller au Ghana avec l'équipe junior. On n'a même pas pu avoir une équipe. Nous étions obligés de prendre quelques petits cadets, c'est-à-dire les enfants qu'on travaille avec, d'autres même minimes, 15 ans, pour compléter ceux de 18-19 ans pour aller faire la compétition. Avec un jeune qui vient de Daloa, c'est à l'intérieur du pays, il a eu médaille d'argent. Donc, nous avons des ligues un peu partout, Bondoukou, Daokro, et il y a eu des athlètes dans ces régions-là, alors qu'ils n'ont même pas de tatan là-bas. Ouais, un peu. C'est la relève, nous sommes en train d'assurer.
Les entraîneurs estiment qu'il faut entre 5 et 7 ans pour bâtir de grands champions. Pour le coach de sprint Draman Diguiba, l'athlétisme ivoirien se reconstruit.
Il y a un moment donné, il y a un vide. Nous essayons plus ou moins de combler ce vide-là. Il faut comprendre que nous sommes dans un processus d'apprentissage à long terme. Donc on n'est pas pressé, on va mollo, tout doucement, jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs.
La Côte d'Ivoire veut devenir le nouveau pôle régional de l'athlétisme et viser les Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour briller. Muriel Aouré y croit dur comme fer.
C'est la Côte d'Ivoire. C'est un pays béni, c'est ça.
Parole de championne du monde. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Allez, championne du monde en salle, Muriel Aouré, sur 60 mètres. On s'en rappelle, Hugo, c'était tout début 2018 à Birmingham, devant justement Marie-Josée Talou.
Merci, Cédric De Oliveira.
Avec plaisir.
Voilà pour le sport africain dans Mondial Sport. Les disciplines s'enchaînent, on passe au tennis, puisqu'à l'issue d'une journée marathon, la France s'est qualifiée pour la finale de la Fed Cup de tennis et la Coupe Davis au féminin. L'équipe de Julien Beneteau a dominé la Roumanie, de Simona Halep sur le score de 3-2. C'était au Kind Arena de Rouen, sous le regard de notre envoyé spécial, Eric Mamrud. Bonsoir, Eric.
Bonsoir, Hugo. Bonsoir, tout le monde.
Quelle journée, mon cher Eric, conclue par la victoire en double du duo Garcia-Mladenovic.
9 heures de tennis, de suspense, de tension, de rebondissement et d'émotion dans tous les sens pour à l'arrivée une explosion de joie pour le clan français, ses supporters. Une vraie libération avec cette victoire à l'arraché, conclue sur le score de 5-7, 6-3, 6-4 par Cristina Mladenovic et Caroline Garcia face au duo roumain Simona Halep et Monica Niculescu. Le duo tricolore reformé quasiment 3 ans après sa dernière sortie. Alors malgré un début de match brouillon, les deux jeunes femmes victorieuses ensemble de Roland-Garros en 2016 ont su retrouver leurs automatismes pour faire la décision et apporter donc le point décisif à la France. Une belle satisfaction pour Cristina Mladenovic.
C'était un match suspense, très long, de grande qualité. Il fallait aller chercher, on l'a fait, donc voilà, très fière. On a eu en face une très belle équipe. Voilà, un match long, en plus à enjeu. Comme je l'ai dit, on a travaillé. Peut-être que tout n'était pas parfait dès le début, mais on avait des adversaires qui nous donnaient la tâche difficile aussi. Et au fur et à mesure, voilà, on a trouvé les bons ajustements. Et ce qui était très important, c'est qu'on a été très, très unis, très combatives, voilà, concentrés. On était là l'une pour l'autre. On se complétait, que ce soit dans la détermination et dans le courage. Comme vous l'avez dit au début, il fallait aller chercher. Et, on l'a fait.
Cristina Mladenovic, cette longue journée, Eric Mamrut, elle avait débuté par un premier bras de fer entre Simona Halep, la vedette roumaine, et Caroline Garcia.
Près de 3 heures de combat et de suspense avec une Caroline Garcia déjà épatante face à la numéro 2 mondiale. Beaucoup d'agressivité, de volonté de la part de la Lyonnaise qui a tout tenté pour déstabiliser la tenante du titre de Roland-Garros. Le match s'est joué à pas grand-chose. Garcia a eu 3 balles de break dans la manche décisive, mais une paire de fautes alliées à la grande classe d'Alep l'ont empêchée de prendre le large. Et c'est elle, au contraire, qui a craqué en commettant 2 doubles fautes dans le 9e jeu. Résultat, une défaite rageante mais très honorable sur le score de 6-7, 6-3, 6-4 pour la Française. Déçue à ce moment là, mais également contente d'avoir pu accrocher la meilleure joueuse du monde sur terre battue, Caroline Garcia.
Évidemment, je suis déçue d'être passée si près, de ne pas avoir apporté ce 2e point à l'équipe. Voilà, elle partait favorite, il fallait que je fasse un très très bon match. J'ai fait seulement un très bon match et dans le 3e set, ça passe vraiment pas grand chose sur quelques attaques. Je les mets 5 cm dehors, mais je me suis battue pendant 3 heures. J'ai cru en mes chances du début à la fin. J'étais pas très loin de faire pencher la balance de mon côté. Évidemment, il y a des choses que je peux mieux faire. C'était pas parfait, il y a des choses que je peux travailler, mais ça me donne confiance et envie de continuer. Parce que voilà, physiquement, déjà, j'ai tenu 3 heures, un match très intense, donc ça, c'est bien. Ça veut dire que les séances où tu finis à la ramasse, ça paye. Donc, faut continuer et ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes encore plus.
Simona Halep qui permettait donc alors à la Roumanie de mener 2-1 dans cette demi-finale.
Et c'est alors que Pauline Parmentier est venue apporter le point de l'égalisation en battant Irina Camelia Begu.
Très belle victoire de la doyenne des Bleus préférée à Lise Cornet et Mladenovic pour disputer ce match déjà crucial. Pauline Parmentier a su gérer cette pression et sortir du grand tennis malgré un passé peu glorieux en Fed Cup. Elle n'avait gagné que 5 de ses 17 matchs simples jusque-là dans cette compétition. Mais face à Begu, la nordiste de 33 ans a imposé son jeu sur terre battue qui est sa meilleure surface. Résultat, un succès en 3-7 pour la 53e mondiale face à la 83e, 6-3 2-6, 6-2, une victoire qui remettait en selle la France et montrait la voie au duo Garcia-Mladenovic. Pauline Parmentier pouvait donc savourer à l'issue de cette folle journée.
Ouais, c'est sûr que de ramener un point, c'est fabuleux individuellement, mais après, l'important, c'est que l'équipe gagne. Si j'avais gagné ce point et qu'on avait perdu, ça n'aurait pas eu la même saveur, forcément. Je me suis vraiment conditionnée et mis dans la position de que c'était ma journée, que j'allais aller le chercher, que c'était pour moi aujourd'hui. Je sais qu'il me reste vraiment peu de moments à vivre comme ça et voilà, j'avais pas envie que ça se passe mal, donc là c'est juste parfait. On est en finale, on va aller en Australie, c'est juste fou et on a vraiment une belle équipe et je suis contente que Caro soit avec nous, que tout le monde ait pu apporter un point. C'est juste fabuleux quoi.
Et coup de chapeau enfin au capitaine Julien Beneteau, à peine retraité en tant que joueur et qui pour sa première année à ce poste se retrouve en finale. Ses choix ce week-end se sont révélés payants et il aura réussi à refaire jouer ensemble Garcia et Mladenovic après leur brouille. À l'arrivée donc une 6e finale de Fed Cup pour la France, ce sera donc en novembre en Australie.
Merci Eric Mamrut en direct de Rouen dans l'ouest de la France où vous suiviez donc la demi-finale de la Fed Cup qui opposait la France à la Roumanie, le tennis et puis le basket désormais dans Mondial Sport, les playoffs NBA. Oui, là on quitte l'ouest de la France pour filer à l'ouest. Aux États-Unis, les confrontations élimination directe de la prestigieuse Ligue nord-américaine battent leur plein depuis une semaine. Et avec nous pour en parler, notre correspondant aux États-Unis, Loïc Piala. Bonsoir Loïc.
Bonjour.
Bonjour à vous. Effectivement, il est encore tôt du côté de Los Angeles où vous vous trouvez. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les Boston Celtics ont été les premiers à se qualifier pour le deuxième tour. C'était tout à l'heure face aux Pacers d'Indiana. Toujours à l'Est, loin de chez vous donc, deux joueurs camerounais brillent en ce moment, vous allez nous en parler tout de suite. Pascal Siakam des Toronto Raptors et Joel Embiid des Philadelphia Sixers.
Oui, alors Pascal Siakam, ce n'est pas exactement une surprise, mais qu'il soit le joueur le plus remarqué de Toronto lors de ses playoffs mérite quand même qu'on s'y arrête. Il s'agit quand même d'une équipe où évolue Kawhi Leonard, l'un des meilleurs joueurs de NBA, Kyle Lowry et Marc Gasol. 30 points, 11 rebonds et pas la moindre perte de balle contre Orlando vendredi. Le natif de Douala joue au Canada depuis 2016 et il a clairement franchi un cap cette année, ce qui en fait l'un des favoris pour le titre de Most Improved Player, le joueur ayant le plus progressé. Je vous rappelle qu'il a commencé le basket tard, hein, à 16-17 ans. Après le match 3, voilà comment Siakam a expliqué ses progrès. Écoutez.
Just playing games, but I think it's more...
Le fait de jouer des matchs, je dirais que je me sens de plus en plus à l'aise. Je comprends mieux le rythme du jeu, je me précipite moins que par le passé. Je m'améliore tous les soirs. À chaque fois que je suis sur le parquet, c'est une chance. Et puis, je crois en mon travail. Ce n'est pas comme si j'improvisais mes actions pendant les matchs. Je les travaille tous les jours à l'entraînement.
You know, I work on those things every day.
Et les Raptors, hein, battus sur leur terrain par le Magic lors du premier match de la série, ont repris la main. Ils mènent 2-1 et franchement, avec leur talent, on a du mal à imaginer que ça ne passe pas. Le match 4 commence dans un peu plus d'une heure.
Joel Embiid, Loïc Piala, lui, il reste fidèle à lui-même.
Exactement, 31 points, 16 rebonds, 7 passes et 6 contre, excusez du peu, c'était hier contre les Brooklyn Nets, avec toujours cette agressivité qui en agace certains au NBA. Après un geste un peu limite sur un joueur new-yorkais, Jared Dudley lui a sauté dessus, ensuite a laissé faire. On sait, le pivot camerounais aime bien le trash talk. Il a dit après le match que Dudley n'était personne, et comme souvent il a fait le show en conférence de presse, un joueur captivement sûr et en dehors du terrain donc, et en tout près surtout du deuxième tour des playoffs. Enfin, les Sixers mènent 3-1 dans la série.
Allez, avant de passer à l'ouest, d'aller chez vous, Loïc, un petit mot sur Milwaukee.
Oui, forcément, c'est la meilleure équipe de la saison régulière et elle déroule contre Détroit 3-0 déjà. Il faut dire que les Pistons ont été privés de Blake Griffin pendant deux matchs et que leur pivot André Drummond a All-Star pourtant Détroit pendant ses playoffs. En face, Giannis Antetokounmpo, potentiel MVP, meilleur joueur de la saison régulière, reste imperturbable. Hein. Le Grec d'origine nigériane tourne à 21 points et 13 rebonds de moyenne sur la série.
Voilà pour Giannis. C'est à l'ouest maintenant. Rien de nouveau. En tout cas, c'est moins facile que prévu pour le champion en titre face aux Clippers de Los Angeles.
Oui, alors la cote des Clippers, il faut le savoir, chez les bookmakers, c'était l'une des pires de l'histoire. Et pourtant, la franchise de LS s'accroche lundi. Les Clippers ont même réussi un comeback jamais vu. Ils ont gagné chez les Golden State Warriors malgré 31 points de retard. Le champion, c'est vrai, dégage moins de sérénité cette saison. Kevin Durant a l'air mal dans ses Nike malgré ses 38 points de jeudi. Les Warriors ont perdu leur excellent pivot DeMarcus Cousins sur blessure. Ils ont l'avantage 2-1 dans cette série. Mais attention donc, le match 4 se joue en ce moment même et Golden State mène 104-96 à moins de 5 minutes de la fin.
En revanche, tout va bien pour Houston, le rival des Warriors.
Oui, ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Rudy Gobert, hein, le français du Jazz de Utah. Son équipe est menée 3-0 par les Rockets de James Harden, candidat à sa propre succession pour le titre de MVP de Beard, hein, comme on le surnomme. La barbe n'a pourtant pas été très bon. Il est à Salt Lake City, il a manqué ses 4 premiers tirs et les Texans l'ont emporté malgré tout sur la fin.
Loïc Piella, on va terminer ce point complet hein, sur les playoffs de la NBA, hein, la prestigieuse ligue de basketball américain, avec deux séries disputées.
Oui, d'abord San Antonio contre Denver, ça fait 2 victoires partout, ça fait 22 saisons d'affilée que les Spurs disputent les playoffs, mais ils ont perdu sur leur terrain hier et frustré, l'arrière DeMar DeRozan a jeté le ballon en direction de l'arbitre après un coup de sifflet, ça ne se fait pas évidemment, il a été logiquement expulsé. En face, Nikola Jokic frôle le triple-double de moyenne sur cette série, 20 points, 12 rebonds, 9 passes. Et puis Portland, Oklahoma City, c'est le duel entre deux meneurs exceptionnels, Damien Lillard d'un côté, Russell Westbrook de l'autre. Les Blazers mènent 2-1 contre le Thunder. Le match 4 débutera tout à l'heure dans l'Oklahoma. À noter que pour Charles Barkley, Portland va sortir vainqueur non seulement de ce premier tour, mais se qualifiera aussi pour les finales NBA.
Merci beaucoup Loïc Piella, correspondant de RFI aux États-Unis pour ce point sur les phases d'élimination directe hein, qui ont débuté depuis une semaine, les phases d'élimination directe de la NBA. On va refermer ce mondial sport en beauté, n'ayons pas peur des mots. On va parler rugby avec Tom Rossi qui nous a rejoint. Bonsoir mon cher Tom.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Le rugby en Europe, les demi-finales de la Champions Cup, c'est la plus belle compétition européenne de club et il n'y a pas eu d'exploit pour la dernière équipe française engagée.
Et c'est le Stade Toulousain, leader du top 14, qui a été surclassé à Dublin sur la pelouse du tenant du titre, le Leinster. Score final 30-12, 3 essais à 0. Toulouse a rêvé une petite dizaine de minutes avant de concéder 2 essais en un quart d'heure suite à 2 erreurs de Thomas Ramos. L'exclusion de Richie Gray pendant 10 minutes n'a pas aidé, 17-6. À la pause, puis le champion d'Europe a tranquillement déroulé son rugby face à des Toulousains impuissants, à l'image du jeune demi d'ouverture Antoine Dupont, pas dans un grand jour, mais lucide au micro de France Télévisions.
C'est sûr qu'ils ont été meilleurs que nous, ils ont fait preuve de plus de maîtrise, d'organisation, d'occupation. Voilà, c'est une équipe qui est habituée à jouer ce genre de match et nous aujourd'hui encore une fois on apprend, même si c'est difficile à dire, mais bon c'est comme ça.
8 ans après sa dernière apparition dans le dernier carré, l'histoire se répète pour Toulouse qui chute encore face au grand Leinster, toujours guidé par son maître à jouer Jonathan Sexton. Les Irlandais qui n'ont perdu qu'une fois en 2 ans sur la scène européenne défendront leur titre face à une autre machine à gagner, les Saracens. Les Londoniens ont remporté leurs 8 matchs européens cette saison. Rendez-vous le 11 mai à Newcastle pour la finale. La veille, le rugby français pourra se consoler avec la finale du Challenge européen. C'est la deuxième compétition continentale. Elle opposera Clermont à La Rochelle.
Merci beaucoup Tom Rossi, il me reste quelques instants pour remercier Fabrice Viollet à la réalisation de Mondial Sport ce soir. Je reviens un petit peu en arrière également pour vous reparler de la petite balle jaune du tennis, vous signaler chez les messieurs cette fois la victoire de Fabio Fognini, l'italien, à Monte Carlo face au Serbe Lajovic. Fognini qui avait battu Nadal en demi-finale. Le sport continue sur RFI cette semaine, Radio Foot bien sûr le retour demain. En attendant, très bonne soirée sur la Radio du Monde.